Bonjour, c'est Elisabeth Quin. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
Dès l'annonce de la chute de Bachar al-Assad dans toute l'Europe, les exilés syriens qui avaient fui le régime ont manifesté leur joie, comme ici à Berlin.
Nous sommes tellement heureux. Les Syriens vont enfin avoir la liberté de décider de leur futur et de rentrer dans leur pays.
Mais les Syriens auront-ils vraiment la liberté de choisir de partir ou de rester en Europe ? L'Allemagne, comme la France, la Belgique, le Royaume-Uni ou encore la Grèce, se sont empressés d'annoncer la suspension de l'examen des demandes d'asile en provenance de Syrie. Dans un contexte de forte progression de l'extrême droite, l'Autriche a même déclaré préparer un programme de rapatriement et d'expulsion des Syriens ayant obtenu l'asile.
Nous allons fonctionner par priorité, en mettant tout d'abord l'accent sur les personnes qui ont commis des crimes, sur celles qui ne s'adaptent pas aux valeurs culturelles européennes, sur celles qui ne travaillent pas et se reposent uniquement sur les aides sociales.
Plusieurs millions de Syriens ont été poussés à l'exil avant de trouver refuge en Europe lors de la grande crise migratoire de 2015. Aujourd'hui, certains redoutent d'être forcés de rentrer, comme ce Syrien installé dans la capitale allemande.
Nous voulons retourner en Syrie, mais nous devons attendre un peu et voir ce qu'il se passe. Si c'est vraiment sûr à 100%, alors on rentrera.
Seulement sur place en Syrie, encore beaucoup d'incertitudes sur les intentions des rebelles islamistes, notamment envers les minorités. L'ONU n'a pas manqué de rappeler à l'ordre les Européens.
Les Syriens qui souhaitent rentrer chez eux doivent le faire volontairement, librement et en toute dignité.
Alors les Syriens exilés vont-ils rentrer ou les rebelles islamistes peuvent-ils provoquer un nouvel exode en faisant fuir les minorités religieuses? Pourquoi les Européens se sont-ils empressés d'ouvrir le débat sur le sort des réfugiés syriens?
Nos trois invités pour ce débat, Omar Youssef Souleyman, bonsoir, vous êtes journaliste et poète franco-syrien. Votre ouvrage « Être français » paru en 2023 chez Flammarion. Nous vous avions d'ailleurs accueilli pour en parler ici même. Selon vous, c'est beaucoup trop tôt pour demander aux réfugiés syriens qui ont construit leur vie en Europe depuis des années de tout abandonner du jour au lendemain pour se réinstaller dans leur pays natal où règne l'incertitude. À côté de vous, Tania Rachaud, bonsoir madame, docteur en droit européen, spécialiste du droit d'asile. Vous êtes juge assesseur à la Cour nationale du droit d'asile. Et vous êtes membre, il faut le préciser aussi, du réseau Desinfox Migration. Vous jugez inquiétant de voir que des pays européens comme l'Autriche, tout de suite après la chute de Bachar al-Assad, pensent avant tout à expulser des dizaines de milliers de Syriens venus se réfugier sur leur sol. Et Didier Lesky, bonsoir monsieur, directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Vous êtes l'auteur de Ce grand dérangement aux éditions Tract. C'est un tract chez Gallimard. Selon vous, il est logique que plusieurs Européens suspendent le traitement des demandes d'asile, plusieurs pays européens suspendent le traitement des demandes d'asile, car la situation est mouvante, incertaine, et c'est dans l'espoir, ils le font dans l'espoir que la situation en Syrie s'améliore. On démarre avec la carte du jour.
Sur le nombre de réfugiés syriens en Europe, donc selon le Haut Commissariat des Nations Unies, l'Allemagne en compte donc le plus grand nombre, plus de 700 000, du fait bien sûr de l'accueil qui leur a été réservé depuis 2015, et loin derrière, on le voit aussi, l'Autriche, plus de 97 000, la France en compte un peu plus de 44 700. Depuis le début de cette année 2024, 2500 Syriens ont déposé un dossier de demande d'asile dans notre pays, en France, contre 45 000 en Allemagne. Donc plusieurs pays européens, on le disait, ont annoncé la suspension de l'examen des demandes d'asile des Syriens. Omar Youssef Souleyman, vous trouvez ça précipité ou vous comprenez les pays européens au regard de la situation, de ce qui se passe actuellement en Syrie ?
Moi, je trouve que c'est vraiment très tôt de parler de ce sujet, premièrement. Et deuxièmement, je pense qu'on vient de sortir d'un demi-siècle d'oppression, de torture, de la barre d'un régime fasciste que pendant toute l'histoire, on n'a jamais vu assez cruel. Je pense qu'un peu de humainement quand même, je pense qu'on peut attendre un peu cette population qui a beaucoup souffert, que ces réfugiés d'ailleurs qu'on vient d'évoquer, des millions de réfugiés en Europe, en Turquie ou partout, ça fait des années et des années qu'on n'a pas contacté nos familles, ça fait des années qu'on n'a pas entendu les voix de nos mères, ça fait des années qu'on n'a vu personne de nos proches. Donc je pense que la souffrance est au-delà de retour.
Vous trouvez ça indécent?
On est extrêmement bouleversé pour l'instant. Moi, je trouve que c'est vraiment un peu effrayant de parler de cette manière aujourd'hui, comme quoi qu'on va suspendre les dossiers des demandeurs d'asile. En France, on a 700 réfugiés, réfugiés syriens qui ont demandé l'asile et ils sont encore en attente. Est-ce qu'ils vont vraiment détruire la France? Si on a une crainte, ça pourrait être des réfugiés, pardon, des djihadistes français.
On en parlera plus tard.
Est-ce que vous y voyez une précipitation choquante? C'est le titre de l'éditorial du Monde
aujourd'hui.
Écoutez, je n'ai pas lu, mais je crois que dans cette histoire, il y a beaucoup de mousse médiatique. D'abord, dans l'ensemble des pays d'Europe, on peut continuer à déposer une demande d'asile, et c'est le cas en France. Tous les jours, il y a des Syriens qui continuent à déposer des demandes d'asile. Et du reste, la semaine prochaine, nous continuons les opérations de relocalisation à partir de Chypre ou de la Grèce. On en fait 150 par mois. Deux familles particulièrement vulnérables, syriennes, dont qui arrivent en France et qui sont installées. Donc, on continue à introduire des demandes d'asile dans toute l'Europe. Aucun pays ne peut arrêter comme ça l'introduction des demandes d'asile. C'est le droit. Et la deuxième chose, c'est de suspendre, effectivement, pendant un temps, l'examen des situations. C'est pas nouveau.
Il fallait le faire maintenant. Omar Youssef Souleymane dit que c'est peut-être pas. On aurait peut-être pu avoir un délai de décence.
Mais le délai de décence, il doit prendre en compte l'idée que. On espère que la situation va s'améliorer. Si demain, il y a la démocratie en Syrie, ce que nous souhaitons tous, eh bien, à ce moment-là, l'examen des situations devient différent. Et donc, ce n'est pas la première fois qu'à partir du moment où il y a un bouleversement dans un pays, on attend un peu. Hein, la question n'est pas de dire « plus personne n'a le droit à l'asile », ce qui serait idiot. Voilà. Et donc, c'est ça qui est en train de se passer. Et par ailleurs, la France, les chiffres ne sont pas tout à fait exacts, parce que, en fait, ça, c'est les chiffres de personnes qui ont le statut de réfugiés. Mais par exemple, pour la France, on est à 80 000 personnes syriennes.
Et on était sur les réfugiés,
voilà,
justement.
Voilà, il faut compter les personnes qui ont d'autres types de séjour. Pareil pour l'Allemagne, en réalité, ils en ont beaucoup plus. Les communautés sont beaucoup plus importantes, même si l'essentiel est soit en Turquie, au Liban, etc.
Tania Rachou, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement, justement, puisqu'on parle de réfugiés, de suspension d'examen des demandes d'asile? Est-ce qu'on peut perdre son statut de réfugié quand il y a une amélioration géopolitique, enfin, en tous les cas, pour l'instant?
Oui, alors juste quand même pour revenir sur cette précipitation et aussi quelque chose de logique dans les deux prises de parole, je pense que ce qui est particulièrement choquant en fait, c'est le fait que des personnalités politiques, des gouvernants, des ministres, ici en France, le ministre de l'Intérieur, effectivement prennent cette position publique de dire que, eh bien, on va suspendre les demandes d'asile. Qu'est-ce qu'entendent les personnes? Elles n'entendent pas ce que vous avez expliqué, ce qui est tout à fait logique de dire, bon, on ne connaît pas la situation en Syrie aujourd'hui.
Qu'est-ce qu'elles entendent?
Elles entendent les personnes qui demandent l'asile ne pourront plus déposer leur demande. C'est-à-dire à un Syrien ou Syrienne demain qui vient déposer sa demande d'asile, ce qu'entend le grand public, c'est de dire, on lui refusera ce dépôt. Bien sûr que non, ça n'est pas possible. C'est exactement ce que vous venez de préciser. Très concrètement, c'est simplement de dire il faut prendre une décision à date. Et à date, en fait, on ne connaît pas la situation. Il est impossible de savoir ce qu'elle va devenir dans deux semaines. Donc, il faut attendre, avoir un tout petit peu de recul pour dire est-ce que c'est suffisamment stable pour ne pas protéger.
Il faut aussi, traiter les migrants ou les réfugiés ou les exilés ou tout ce que vous voulez en barrant d'une manière différente. Par exemple, moi, je suis arrivé en France en 2012. Ça fait 12 ans que je suis français, je suis citoyen français. Quand je vais revenir en Syrie, là, j'attends seulement l'ouverture des aéroports en Syrie pour rentrer voir ma mère, qu'on n'est pas vu depuis 12 ans, en tant que Syrien, mais aussi en tant que citoyen français, parce qu'on est engagé en France, dans cette France universaliste, afin que la démocratie s'installe là-bas, afin que la liberté d'expression s'installe là-bas. Et on n'est pas une minorité. On est vraiment nombreux, des Syriens dans le monde entier. Je veux dire que certains sont des citoyens, ont d'autres nationalités, d'autres ils connaissent pas, par exemple pas la langue du pays d'accueil, d'autres ils sont bien intégrés. Donc je pense qu'on n'est pas, on ne va pas mettre tout le monde dans le même sac.
Ce n'est pas homogène.
On va l'emmener, on va le mettre là, on va le rester là. Je trouve que c'est honteux et c'est complètement absurde.
Mais pour poursuivre justement, c'est d'autant plus pas possible d'interdire à toute personne de déposer une demande d'asile parce qu'elle vient de Syrie, parce qu'il y a cette idée reçue que la demande d'asile, elle est limitée à des situations de guerre ou d'opinion politique. Or, des personnes qui ont des difficultés en raison de leur orientation sexuelle, pourquoi pas aussi des violences conjugales, leur situation ne sera pas modifiée.
Mais de fait, ils peuvent déposer. Mais c'est devenu, c'est vrai, un sujet politique. On va voir le tweet de Alice Weidel, la chef de file du parti d'extrême droite AfD, en Allemagne, celui qui célèbre la Syrie libre, dit-elle en Allemagne, n'a manifestement plus de raison de fuir. Il devrait retourner immédiatement en Syrie. Voilà aussi, Didier Leschi, ce qui est devenu, ce qui est en train de devenir aussi ce phénomène géopolitique, c'est-à-dire une instrumentalisation par des partis populistes.
Oui, bien sûr. Mais on a un exemple en France en particulier du changement de situation qui va entraîner un réexamen de l'ensemble des situations des personnes, c'est l'Espagne. Et c'est d'autant plus important de se rappeler que, heureusement, on va fêter le 50e anniversaire de la chute de Franco, d'abord
par sa mort.
C'est-à-dire,
qu'est-ce qui s'est passé
à bien, à partir de 1979, entre 1979 et 1981, il y a une procédure d'application de la Convention de Genève qui dit que quand la situation s'améliore et qui ne justifie plus le statut de réfugié, eh bien, on retire le statut de réfugié. Ça ne veut pas dire pour autant que les personnes sont parties, puisqu'elles peuvent avoir d'autres motifs pour rester en France, et c'est ce qui s'est passé pour les Espagnols. Certains sont rentrés, très peu, entre 15 et aux alentours de 15%, et d'autres avaient épousé des conjoints de Français, travaillaient, étaient là depuis longtemps. Donc ce n'est pas anormal, c'est inscrit dans la Convention de Genève. Mais il y a un deuxième problème, et qui fait qu'on a peut-être raison d'attendre un peu, c'est que la Convention de Genève, elle dit aussi qu'on ne va pas accorder l'asile à un criminel de guerre. Et que une des choses qui est en jeu aujourd'hui en Syrie, c'est de savoir exactement ce qui se passe, qui sort et qui rentre. Et parmi ceux qui sortent aujourd'hui, eh bien, il y en a qui pourront peut-être s'inscrire dans la procédure d'asile, mais dont on espère, parce qu'on va les repérer très vite, qu'ils n'auront pas le statut de réfugié.
Et on l'a déjà fait en France avec le frère d'ancien président Hafez Assad, Rifat al-Assad, on l'a accueilli en France en tant que réfugié.
Le frère de l'ancien président
de Hafez al-Assad, qui était
le père de Bachar al-Assad.
Évidemment, l'oncle de Bachar al-Assad.
L'oncle.
Et François, je tiens à préciser que François Mitterrand a donné la médaille de légende en tant que réfugié syrien ici en France, et il a massacré 30 000 Syriens en Syrie. Donc, il ne faut pas, pour juste faire commenter à ce que vous dites.
Tania Rachaud, comment voyez-vous ce qui se passe en Autriche, où il est question de remigration et de réexpédier les Syriens chez eux? Ça a été évoqué?
Oui, alors effectivement, l'Autriche et le Danemark sont des pays où on a l'habitude d'entendre des positions très rapidement extrêmes. Là, ce qui est inquiétant, c'est que ce ne sont pas les seuls pays, la France aussi. Il y a encore une fois un écart entre la décision politique et je rejoins ce qui a été dit, où on a l'impression qu'on va traiter en paquet les personnes syriennes réfugiées et que toutes ces personnes-là en paquet vont être redéplacées. Or, il y a trop de situations variables et c'est vrai que le retrait est possible d'une protection internationale, tout à fait. Il est possible, il suit une procédure où la personne va pouvoir être entendue et contester le retrait. Mais finalement, il faut aussi se rappeler qu'il y a plein de motifs de protection en tant que réfugié et une protection subsidiaire pour la zone de guerre. Donc finalement, le retrait le plus évident, disons, c'est celui de protection subsidiaire en raison d'une fuite d'une zone de conflit. Et dans ce cas-là, si on estime qu'il n'y a plus de zone de conflit, le retrait serait possible, les Danois l'avaient fait à une époque, et donc parce que la seule raison de donner la protection internationale, c'est la provenance d'une certaine région.
Et certains se sentent aussi complètement intégrés, ils ne veulent pas rentrer au pays. On va écouter cette réfugiée syrienne qui est aujourd'hui, qui habite en Grèce.
معلش للواحد يحكي بصراحة يعني أنا حتى لو بدي رجع أولادي ويتعلموا اللغة العربية ويدرسوا بالمدارس أنا درست بالمدارس ما فيها مستقبل يعني إذا ما كان إنه إذا ما رضوا يجددونها فأكيد نرجع على بلد يعني على بلدنا ما في مكان نروح عليه.
Mais Didier Lesky, c'est vrai qu'en même temps, on se dit, mais comment ça se fait que l'Union européenne ne peut pas avoir une réponse coordonnée au pacte? Au moment où on va avoir un pacte migration-asile-migration qui doit être retranscrit dans le droit français dans quelques semaines, eh bien tout ça est disparate. C'est vrai qu'on peut avoir des interrogations. On se dit, est-ce que chacun y trouve pas un intérêt politique? Et puis récemment, en effet, une dizaine d'États membres, dont l'Autriche, eh bien avait déjà engagé une normalisation des relations avec le gouvernement syrien avant qu'il y ait ces événements-là. Donc on y voit de l'opportunisme.
Je pourrais reprendre un titre d'un livre de Régis Debray qui s'appelle L'Europe fantôme, qui dit, et justement, sur la question migratoire, c'est un des sujets où l'Europe a du mal à se coordonner, et c'est un peu le sentiment que ça donne. Je crois qu'il ne faut pas confondre le retour contraint et le retour volontaire. Qu'il y ait actuellement, par exemple, une réflexion pour aider des Syriens qui voudraient retourner volontairement en Syrie, parce qu'ils espèrent, ce que nous espérons tous, que la démocratie s'installe, et qu'à ce moment-là, il y a une nécessité de reconstruire le pays. Ça, je crois qu'il faut l'aider, il faut le penser, et l'Europe pourrait mettre en place des dispositifs de ce type. Mais ce que dit la dame, c'est ce qu'on entend aujourd'hui dans beaucoup de pays, et qu'on entend aussi en France. La question principale, c'est que tout a été détruit, ou beaucoup de choses ont ont été détruites. Et la question principale, c'est la scolarisation des enfants. Mm-hmm. Je veux dire, on ne peut pas quitter un pays où on scolarise ses enfants, comme par exemple la France, et rentrer dans un pays où on n'a rien. Enfin, je veux dire,
tout à fait, parce qu'en fait, il y a des gens qui ont déjà fait une vie ici. Ils ont des enfants, ils sont mariés, etc. Comme j'ai dit tout à l'heure, il faut vraiment regarder la situation d'une manière individuelle. Chacune et chacun a son histoire. Ce n'est pas facile. Il y a des enfants qui sont arrivés en France, des adolescents. Hier, avant-hier, j'ai rencontré un Syrien. Il est arrivé, il avait 11 ans. Aujourd'hui, il a 21 ans. Il est étudiant, il est français. Il bat le français mieux que l'arabe. Donc, ce sont des cas, général. Autre chose, oui. Si on parle aujourd'hui de danger en Syrie.
De danger en Syrie.
Voilà, de danger en Syrie. Je pense qu'il faut soutenir la démocratie syrienne pour créer une ambiance. Je parle de la démocratie, je parle des démocrates, des rebelles, pour une Syrie laïque et libre, afin que ces réfugiés rentrent. Parce que ces réfugiés ont fui de l'insécurité et de la violence. Ce n'est pas pour revenir et y vivre dans la même ambiance. C'est très simple.
Tania Rachaud, en même temps, est-ce que c'est anormal que les pays européens envisagent d'aider ces gens au retour? Parce que quelque part, ils venaient provisoirement, même dans l'esprit des Européens, ils venaient se réfugier. Le mot réfugié, c'est aussi trouver un moment temporaire d'exil. Est-ce que ça ne fait pas partie aussi d'une normalité que de les aider dans un retour?
Oui, si, tout à fait. Effectivement, il y a cette option de l'aide au retour volontaire. Il y a une variété de situations qui existent. Après, vis-à-vis de la Syrie, il y a quand même eu toujours, vis-à-vis de l'exil syrien, toujours une forme de cynisme de la part de l'Union européenne. D'une part, parce que justement, la protection temporaire qui aurait pu être déclenchée à l'époque ne l'a pas été, alors qu'il y avait eu des demandes en ce sens. Il a fallu attendre que ce soit l'exil ukrainien qui soit concerné pour que, pour la première fois, on ait cette idée de protection temporaire, justement, de dire parce qu'il y a une difficulté dans votre pays, on vous protège et par la suite, vous pourrez donc rentrer.
Vous pouvez rappeler pour nos téléspectateurs ce que c'est la précisément temporaire. Que la protection
Bien
temporaire.
Sûr. C'est une protection à côté de celle de réfugiés et de la protection subsidiaire qui peut être donnée en cas d'afflux massif lié à un conflit, tout D'accord. simplement. Donc l'appréciation est très large. Mm-hmm. Je vais finir. L'appréciation, elle est très large de cette question et donc la question l'exil syrien rentrait tout à fait dans cette ligne. Et l'avantage, eh bien, c'est que les personnes peuvent tout de suite travailler, peuvent tout de suite accéder aux aides, et donc il y a une protection.
Pourquoi cette dénégation, Didier Lesky, vous
Parce que la protection temporaire en France, elle est de 6 mois, et c'est pour ça, par exemple, que la première nationalité en demande d'asile actuellement en France, ce sont justement les Ukrainiens, parce que accéder au statut de réfugié donne une perspective plus longue, voilà. Et alors que la protection temporaire a quelque chose de fluide, justement, parce que elle doit être renouvelée tous les 6 mois, alors que si on accède au statut de réfugié, et par exemple les Syriens accèdent ici à plus de 90% au statut de réfugié. Et donc le statut de réfugié donne une perspective beaucoup plus longue et par ailleurs permet très vite d'accéder à la nationalité française.
Tout à fait, ce que je dis c'est qu'il y avait un cynisme de l'Union européenne de refuser d'envisager cette protection D'accord. temporaire qui permettait d'avoir une protection plus rapide. Deuxième cynisme, c'est le fait que depuis l'exil syrien de 2015, on parle de crise migratoire. Et c'est le vocabulaire de l'Union européenne qui a changé depuis cet exil en estimant qu'il était si important qu'il fallait prendre un paquet de mesures qui ont été adoptées et qui vont aboutir aujourd'hui à une rétention systématique.
La crise en Europe, c'est la faute des Syriens, ça, c'est clair.
Donc voilà, il y a une forme quand même déjà de positionnement compliqué vis-à-vis de l'exil syrien.
Alors, on va parler avec vous trois et avec Anna de potentiels réfugiés syriens qui pourraient rejoindre l'Europe, mais il y a des djihadistes français qui sont du côté d'Idlib et qui inquiètent les Français, les autorités françaises.
Au moment de la chute du régime, on a vu circuler une vidéo qui a été postée par Wassim Nasr et France 24, dans laquelle on entend des combattants djihadistes français, on les écoute.
Allahu Akbar ! Allahu Akbar ! Même les chrétiens ils sont heureux ! Même les chrétiens ils célèbrent ! Tous ensemble, alhamdoulilah ! Jour de dimanche, jour de messe !
Alors les services de renseignement français ont bien identifié une centaine de djihadistes français dans la région d'Idlib, au nord-ouest de la Syrie. Une trentaine seraient dans les rangs de HTS. Certains ont d'ailleurs probablement participé à la chute de Damas. Et eux, a priori, représentent une menace moindre pour la France. Ils auraient rompu avec Al-Qaïda, n'ont plus de lien direct avec la France. Et surtout, ils semblent vouloir s'inscrire dans un projet local syrien, pour le moment en tout cas. Et puis il y en aurait une cinquantaine d'autres qui sont sous les ordres du franco-sénégalais Omar Homsen, qui a été l'un des principaux recruteurs de djihadistes pour Al-Qaïda et qui est sous le coup d'un mandat d'arrêt de la justice française. Au passage, il avait légitimé l'attentat contre Charlie Hebdo. Et de l'autre côté de la Syrie, il y a des Français détenus par les Kurdes, cette fois-ci dans le nord-est. Il serait plus de 70 anciens djihadistes de Daesh, 50 femmes, 120 enfants, selon le ministre démissionnaire des armées, Sébastien Lecornu. Et pour l'instant, le Quai d'Orsay s'oppose au rapatriement des plus jeunes, même s'ils représentent une menace potentielle, car ils ont été radicalisés, a priori, dès leur plus jeune âge. Alors, on a évidemment le souvenir de 2015, de ces terroristes qui se sont fait passer pour des migrants syriens qui sont arrivés en France en utilisant les routes migratoires. Didier Lesky, est-ce que ce scénario peut se reproduire ?
Il faut espérer qu'ils ne se reproduisent pas. Mais par ailleurs, toutes ces personnes ont des parcours un peu erratiques. On ne sait pas exactement ce qu'ils ont fait. Est-ce qu'ils n'ont pas participé à des choses terribles, en particulier contre des Syriens ou des Syriens démocrates, puisque tous les Syriens n'étaient pas spontanément islamistes, hein, même si aujourd'hui on considère que le parti ou le courant qui a pris le pouvoir est peut-être moins islamiste qu'il l'était avant. Donc il faut étudier au cas par cas. Et en ce qui concerne ceux qui sont emprisonnés par les Kurdes, il faut faire attention parce qu'ils ont commis des exactions vis-à-vis des Kurdes extrêmement violentes. Hein. On peut pas oublier Kobané, tout ce qui s'est passé, etc. Et il faut faire attention de dire on veut les rapatrier. Mais est-ce que, par exemple, en 1944-1945, on aurait dit qu'il faut renvoyer les nazis en Allemagne plutôt que de les juger en France si les Kurdes veulent les juger ou si les Syriens veulent les juger parce qu'ils ont commis des exactions, c'est quand même leur droit.
Mmh. Et Tania Rachou, est-ce que, par exemple, l'Union européenne a les moyens de contrôler qui emprunte ces routes migratoires pour arriver jusqu'ici, par exemple ?
Ah oui, il y a une vraie volonté de surveillance des frontières de façon plus généralisée avec des outils numériques, des nouvelles technologies, des intelligences artificielles qui sont assez présentes déjà au niveau de l'Union européenne, d'ailleurs qui anticipent parfois les flux, hein, on n'en parle jamais, mais il y a des outils aujourd'hui qui existent qui anticipent les flux. Mais dans le pacte, en plus, il y a cet objectif…
Le pacte asile-migration.
Exactement, le pacte asile-migration qui sera en vigueur à l'été 2026, exactement. Il y a cet objectif de filtrer les personnes qui arrivent, c'est-à-dire de
passer… Filtrer ou empêcher ?
Alors, un peu des deux, probablement.
Non, mais si on se réfère aux djihadistes dont on vient de parler.
De 2015.
Exactement. Alors, filtrer, c'est toute personne qui arrivera à une frontière extérieure sans document, et bien tout simplement sera passée aux différentes bases de données qui existent déjà au niveau de l'Union européenne, qui sont des bases de données à très large échelle. Et donc, dans l'objectif, évidemment, à la fois de savoir si la personne a une raison d'entrer ou pas, et en même temps, si elle a effectivement commis...
Et si la personne pratique la dissimulation, qu'est-ce qui se passe si elle pratique cette fameuse dissimulation que les djihadistes peuvent avoir intégrée et intériorisée ?
Ça peut arriver.
En France ?
Oui. Pour venir ?
Justement, en fait, tout est possible. Tout dépend de ce que ça va passer à l'avenir en Syrie. Et ces derniers jours, j'ai contacté des dizaines de Syriens fuyant des villes comme Homs, comme Damas, fuyant du régime de Bachar al-Assad, s'est réfugié dans le nord. Je parle de cette zone énorme d'Idlib, contrôlée et par HTS et par des autres groupes militaires, y compris le groupe de Omar Homsen, le djihadiste. Ces Syriens ont souffert beaucoup de ces gens, même comme ils ont souffert du régime de Bachar al-Assad. Là, aujourd'hui, ils sont de retour pour, encore une fois, faire barrage à ces djihadistes. Aujourd'hui, ici en France et en Europe en général, on doit être, à mon avis, extrêmement prudent parce qu'il n'y a pas de djihad, il n'y a pas d'intégration, intégrisme limité sur une frontière. Ce qu'elle a dit Jolani il y a quelques jours, Ahmad Shara.
Jolani, c'est le rebelle qui a à l'origine de la chute d'Assad.
On fait zéro confiance à Jolani.
Ancien djihadiste est toujours islamiste.
C'est Al-Qaïda, islamiste une fois, islamiste toujours. Un islamiste qui parle de la diversité, c'est comme un imam dit athée, on ne croit jamais quand même pour moi, comme Jolani, parce que c'est un djihadiste, on ne sait pas à quoi il pense. C'est un frériste musulman, etc. Mais il doit être extrêmement prudent. Il faut être
votre conclusion,
prudent.
C'est la prudence.
Je parle des démocrates syriens, et ici en France et partout.
Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat.
Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.